Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le mardi 18 juin. Et nous sommes en direct sur Radio Escapade. Aujourd'hui, on va faire un petit retour et aussi une prospective sur les événements des marches des fiertés, notamment celle qui a eu lieu à Montpellier ce samedi et celle qui aura lieu au Vigan le samedi qui arrive. Ça sera l'occasion aussi un petit peu de faire le point sur les attaques, notamment homophobes, mais plus généralement fascistes, décomplexées depuis notamment la dissolution de l'Assemblée nationale et les résultats des élections européennes. Mais on ne parlera pas que de ça, on ira aussi voir un petit peu ce qui se passe du côté de la législation de l'environnement avec justement le gouvernement qui est passé un décret sur... Justement les réglementations agricoles, pardon, une histoire de vaccin contre la grippe aviaire aussi qui est en train de passer du côté de l'Europe. Et puis on ira faire aussi un petit tour en Californie et en Israël où il fait toujours aussi chaud. Mais tout d'abord, donc, un petit retour en texte, et pas en images, mais les images étaient sur le site de Le Point, le point avec un G à la fin.net, qui était donc ce samedi à la marche des fiertés LGBTQIA+, qui avait lieu à Montpellier, et où l'accent est mis dans cet article sur la présence d'un pink bloc, c'est-à-dire un groupe rose, qui était là pour dénoncer la récupération politique, justement, de cette maintenant très institutionnelle marche des fiertés montpelliéraine. Une récupération dénoncée donc par la municipalité socialiste, et c'est donc un groupe de militants, militantes, qui a pris la tête de cortège de cette marche le samedi 15 juin avec ses slogans radicaux. Sur un tract, on pouvait lire, par exemple, « Nous dénonçons le pinkwashing de Montpellier, qui se donne une image gay-friendly, tout en menant une politique antisociale et répressive. » Parce que nos fiertés sont aussi antiracistes, nous nous opposons à Michael Delafosse et à ses élus qui appuient leur soutien au régime génocidaire israélien. Parce que nos fiertés sont anticapitalistes, nous refusons l'instrumentalisation par un misérable soutien d'apparat. Ça, c'était donc un des tracts du Pink Bloc 2024 qui a été distribué au moment de cette petite prise donc, de position. Ils se sont mis devant la banderole normalement officielle avec le maire de la ville. D'autres revendications politiques étaient imprimées sur ce tract, qui détonnait un petit peu avec le côté festif hein, du reste de cette mobilisation. Ils sont demandés par exemple le rejet total du projet de loi des sénatrices LR, projet de loi qui propose la psychiatrisation et l'interdiction de transition, quelle qu'elle soit, contre les mineurs trans. Ils demandent également une transition réellement gratuite et dépsychiatrisée auprès de professionnels ayant une formation sur le sujet. Et enfin, la fin des mutilations, stérilisations et traitements hormonaux non consentis pour les personnes intersexes, et ce, quel que soit leur âge. Et donc voilà que vers 15h, ce Pink Bloc a pris la tête du cortège. Il l'a prise donc au maire de la ville, Michael Delafosse, et à son équipe, qui sont restés médusés, alors qu'eux étaient en randonnion, d'ailleurs une banderole, sur laquelle était inscrit révolté.es, avec les sigles de la mairie, du département et de la région. Et le groupe Veolia, d'ailleurs, qui était sponsorisé, qui était sponsor de l'événement, visiblement. L'édile de Montpellier a d'ailleurs par la suite très vite disparu du cortège et des policiers sont intervenus pour tenter d'isoler ce pink bloc du reste de la manif, bloquant ainsi l'avancée des chars et provoquant des mouvements de foule. Autre particularité de cette année, c'était un petit peu évoqué dans ce tract, le comité de soutien universitaire à la Palestine a rejoint ce pink bloc pour continuer de dénoncer le génocide en cours à Gaza et un drapeau palestinien a été suspendu auprès d'un pont au niveau du défilé. Plus tard dans l'après-midi, à noter, pendant cette Pride aussi, un autre incident un petit peu un petit peu agité les informations et les réseaux sociaux ce week-end. Deux militants gardois de la CNT, donc puisqu'ils avaient leur drapeau CNT, c'était assez visible, ont été interpellés par la police pour, sous le chef de dissimulation du visage. Et donc, suite à cette arrestation, des soutiens ont été un rassemblement de soutien a été organisé devant le commissariat central de Montpellier pour exiger leur libération. Une libération qui n'a pas eu lieu puisqu'ils sont restés en garde à vue tout ce week-end. Hein. Et on a pu lire aujourd'hui que c'est justement deux manifestants interpellés sont passés en composition pénale hier, lundi 17, au tribunal de la ville. Donc, ils ont été placés en garde à vue aux alentours de 17h45 le samedi pendant la manif, alors qu'ils allaient, je crois, dans une épicerie... faire des emplettes. Donc le motif retenu, c'est dissimulation volontaire du visage sans motif légitime lors d'une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou de risques manifestes de troubles à l'ordre public. Ils ont finalement été présentés donc hier devant un délégué du procureur pour une composition pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors ça veut dire, donc en fait c'est une procédure qui évite un procès et qui ne peut être proposée que par le procureur, que justement dans le cas où les accusés reconnaissent les faits reprochés. Donc c'est ce qui s'est passé hier visiblement dans la matinée. L'un des deux interpellés est passé devant ce délégué du procureur avec son avocate qui était malheureusement absente. Le magistrat a proposé 250€ d'amende, 6 mois d'interdiction de paraître à Montpellier et une inscription au bulletin B1 du casier judiciaire. Le manifestant est convoqué dans les 7 jours devant un juge à Montpellier pour se voir notifier ou pas son acceptation de la mesure de composition pénale, donc voir s'il accepte cette sanction, suite à quoi, dans les 10 jours, une seconde convocation s'ensuivra, et ça sera toujours à Montpellier, à nouveau, devant un délégué du procureur. On parle de dissimulation de visage, hein, c'est-à-dire que je crois qu'il avait des lunettes et un masque chirurgical sur lui, donc à savoir qu'en manifestation, c'est toujours interdit, mais visiblement c'est rare les fois où on se fait arrêter pour cela. Eh bien, c'est arrivé ce samedi. La seconde personne interpellée, elle, s'est vue proposer la même condamnation, mais a préféré utiliser son délai de 10 jours de réflexion sur les conseils de son avocat. Donc, c'est bien d'avoir un avocat. Les deux militants, donc, je vous le disais, ont été arrêtés alors qu'ils sortaient du cortège pour aller dans une épicerie. Et à l'époque, ce samedi, on a pu lire que l'un des deux policiers aurait dit à l'un de ceux-là que, vu qu'ils avaient des pancartes hostiles à l'extrême droite, eh bien, qu'il fallait respecter le vote démocratique. Et que, donc, en gros, c'était... parce qu'ils avaient affiché des couleurs politiques antifascistes, en gros, disons-le, que les policiers sont venus les voir. Mais finalement, c'est donc pour ce motif de dissimulation de visage, qui est quand même un petit peu plus certainement justifié légalement, qu'ils ont été déférés devant la justice. Bon, même si on ne se doute pas qu'à la Pride, des visages non reconnaissables ou dissimulés, il y en avait certainement un paquet d'autres à cette Pride, mais les couleurs rouge et noir visiblement de la CNT n'étaient pas du coup des forces de l'ordre qui auraient préféré voir tout simplement un joli rose avec des paillettes. D'ailleurs, on va rester dans cette thématique et revenir sur quelques chiffres que j'ai collectés, qui ont été publiés le 17 mai dernier, donc il y a un mois, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc le ministère de l'Intérieur a rapporté... des chiffres avec malheureusement une hausse des atteintes envers les personnes LGBTQIA+, une hausse de 13% par rapport à 2022. Donc les chiffres qui ont été publiés cette année sont ceux sur la période de toute 2023. En tout, donc 2870 crimes ou délits LGBTphobes et 1690 contraventions ont été enregistrés sur l'année 2023 par les services de police et de gendarmerie sur le territoire français. Ça fait en tout 4560 infractions. Ce constat est donc particulièrement alarmant, puisque notamment les crimes et délits ont, eux, augmenté de 19%. Donc là-dedans, on met les agressions, les menaces et le harcèlement. Et quelques exemples plus actuels donc, de ce dernier mois, compilés sur le média en ligne Contre-Attaque, qui a mis quelques incidents passés un petit peu discrètement dans la presse, mais qui sont un petit peu révélateurs du climat ambiant. Notamment ce dimanche 9 juin au soir, à Paris, au moment où le Rassemblement National venait de faire le plus gros score de son histoire aux élections européennes, une bande de néo-nazis, hein, ivre de ce triomphe électoral et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, était donc descendu dans la rue pour se faire plaisir, entendait donc agresser qui il pourrait trouver. Eh bien, quatre d'entre eux ont été arrêtés après un tabassage en raison d'une orientation sexuelle. C'était près du jardin du Luxembourg, aux alentours de 2h du matin. Armé de bâtons et d'une ceinture, ce commando a frappé et insulté une victime âgée de 19 ans qu'ils ont croisée au hasard, une personne qui rentrait chez elle, en lui hurlant des propos homophobes et transphobes. Un peu plus tôt d'ailleurs, ils avaient bloqué le passage à une jeune femme en lui disant « Gare ton vélo, salope !» Les agresseurs sont des membres du GUD et du Rassemblement National, hein, des jeunes bourgeois, sous-titre d'ailleurs le média, des jeunes bourgeois fascistes, sous-titre le média Contre-Attaque, parce qu'ils sont connus. Donc un de ces personnes interpellées est le leader du GUD de Paris, et d'ailleurs le fils d'un cadre du Rassemblement National, à savoir Axel Lousteau, très proche de Marine Le Pen. Tout ce petit monde était d'ailleurs déjà présent à la manifestation qui avait été organisée chaque année au début mai, manifestation néo-nazie qui s'est passée, vous l'avez peut-être vu, cagoulée et protégée par les autorités. Là, dissimuler son visage, visiblement, n'était pas si grave. Signe donc de leur sentiment de toute puissance et d'impunité, ils ont revendiqué leur engagement militant en garde à vue, hein, donc ils ont confirmé avoir bien attaqué par des raisons idéologiques, et l'un d'entre eux a même déclaré aux policiers « Vivement, dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut ». Dans 3 semaines, donc à l'époque, c'était pour lui quand Macron aurait livré la France aux fascistes, ainsi qu'il l'espérait. Cette petite brève a d'ailleurs été rapportée, je crois, dans les colonnes de Libération, où il y a aussi des articles qui relatent un petit peu tous ces incidents-là de ces dernières semaines. Une autre attaque a eu lieu ce samedi 15 juin, c'était à Angers, aux alentours de 21h30. Donc une guinguette dans un parc passait de la musique, sur la scène du Héron Carré, on est à l'entrée d'un parc de la ville d'Angers. Bien, l'ambiance festive a soudainement basculé lorsqu'un commando, là aussi, de jeunes fascistes est débarqué armé devant cet établissement où on organise d'habitude des concerts gratuits tout l'été. Une dizaine de personnes avec des gazeuses et des ceintures et le visage masqué s'en sont donc pris aux personnes qui étaient là pour passer la soirée. Au moins une personne a été tabassée par hasard. Les forces de l'ordre sont arrivées trop tard, hein, ils étaient déjà partis. Mais alors là, la police a, elle, menacé les clients présents et ont arrêté d'ailleurs une personne qui voulait partir à la recherche de ses agresseurs. A préciser quand même que l'attaque a eu lieu donc suite à une manifestation antifasciste qui avait eu lieu le même jour à Angers et peu après un apéro organisé par le Front Populaire. Ils espéraient donc trouver dans cette guinguette des participants à ces deux rassemblements politiques. Je termine avec Lyon, où ce 14 juin, après une manifestation là aussi organisée contre la montée de l'extrême droite, une cinquantaine de néo-nazis a arpenté les rues de la vieille ville en commentant là des agressions racistes. Plusieurs vidéos les montrent. Dans ce cortège, on entend les cris « On est nazi, putain, islam hors d'Europe » ou « La France est à nous ». Dans la ville de Lyon, l'extrême droite dispose de plusieurs locaux qui ont pignon sur rue, notamment une salle d'entraînement. Elle y multiplie les attaques, y compris au couteau, dans une impunité qui sidère tous les commentateurs. Encore plus fou d'ailleurs, les autorités lyonnaises ont préféré, donc le préfet a préféré dissoudre récemment, l'année dernière, un collectif antifasciste, la GAL, plutôt que de fermer ses locaux ouvertement d'extrême droite. D'où partent d'ailleurs depuis des années des attaques sanglantes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ce 15 juin aussi, 300 néo-nazis ont participé à un tournoi de MMA, Mixed Martial Arts, organisé par un réseau nommé Hammerskin, avec comme partenaire le groupe nazi Blood and Honor. Donc là, c'est vraiment pas du rigolo du tout. Et ça se passait dans la charmante commune de Combres, sous les côtes. On est dans la Meuse. Là aussi, les policiers sont juste venus amicalement prendre un petit peu acte de cet événement privé. La sécurité intérieure n'est pas intervenue. Voilà, vous n'avez certainement pas entendu parler de toutes ces agressions dans les médias, hein, qui d'habitude montent en épingle le moindre fait divers pour créer de l'anxiété. Et ben là non, visiblement, au niveau national, on préfère continuer à diffamer, par exemple, à gauche toute la journée ou passer sous silence les événements qui pourraient montrer le vrai visage de certains, justement, de militants historiques du Rassemblement National et de tous ses soutiens. On va s'arrêter là pour cette petite page. Et pardon, je rappelle quand même que samedi prochain, au Vigan, donc ce 22, ça sera la première marche des fiertés organisée dans le secteur. Important donc de marquer de la solidarité où que vous vous situiez dans tout l'arc-en-ciel, qu'il soit politique ou d'identité sexuelle ou de genre. Le rendez-vous, c'est au Vigan, dès 11h, pour rencontrer tous les organisateurs et organisatrices. Il y aura des stands de collectifs présents sur place, puisqu'il y a du monde qui vient de d'autres régions et de villes environnantes. Des associations qui participent aussi seront là au parc des Châtaigniers. À 12h, une conférence gesticulée vous est proposée sur le genre. Ça s'appelle « La binarité ou le typhus ». Et à 15h, c'est donc le départ officiel de la marche des fiertés. De nombreuses interventions et prises de parole auront lieu pendant le parcours sur les luttes des trans, des migrants, des migrantes, des travailleuses du sexe, pour l'accès aux services de santé, contre le pinkwashing ou sur la banalisation du masculinisme et des violences de genre. Tout l'après-midi donc au Vigan et à 20h30 à Pondéro, une after pride à l'étuve, plutôt festive avec un repas, scène ouverte, des drag shows, des DJ, etc. etc. Le micro de Radio Escapade sera présent sur cet événement. On tentera de vous faire un retour en son le plus exhaustif possible. Et enfin, tout ce week-end un peu partout en France, j'avais noté aussi qu'il y a eu, bon, vous le savez certainement, beaucoup de manifestations. Je les évoquais un petit peu partout. 182 manifestations se sont déroulées tout le week-end contre l'extrême droite. La CGT revendique 640 000 manifestants en France, 250 000 pour les forces de l'ordre. Et on a enregistré 20 interpellations, dont 9 à Paris, et 16 gardes à vue, dont 5 à Paris. Pendant que le pays repart donc précipitamment en campagne pour ses législatives, le gouvernement lui continue de travailler et continue notamment d'expédier ses affaires courantes, notamment du côté du ministère de l'Agriculture. Le 10 juin dernier, ainsi, a bien été publié un décret qui était promis lors de la crise agricole, vous savez, celle qui a vu tous les panneaux de nos communes retourner. Et ce décret facilite la vie, notamment aux élevages intensifs. La première mesure de ce décret relève en effet les seuils à partir desquels une installation est obligée de passer par une évaluation environnementale. Une installation, donc une exploitation agricole. Celle-ci prévoit, donc l'évaluation environnementale prévoit notamment un rapport sur les conséquences écologiques du projet et une consultation du public, normalement. Auparavant, donc, le seuil pour déclencher cette évaluation environnementale pour les élevages de volailles, c'était 40 000 animaux. Il est plus que doublé avec ce décret, il passe à 85 000 poulets. Donc tant qu'on est en dessous, on n'aura pas besoin de faire cette évaluation environnementale. Pour les porcs, la limite passe de 2 000 à 3 000. Et pour les truies, de 750 à 900. Donc en dessous de ces chiffres, les élevages seront soumis au cas par cas. C'est-à-dire que c'est au préfet de décider si l'élevage doit ou non être soumis à la procédure d'autorisation environnementale. Or, on s'en doute, et c'est d'ailleurs France Nature Environnement, par la voix de Romain Écorchard, qui est juriste pour l'association, eh bien, le préfet ne demande quasiment jamais cette autorisation. L'augmentation est énorme, les seuils étaient pourtant déjà très hauts, rappelle donc France Nature Environnement, qui est donc effaré de cette nouvelle égratignure, dans le code environnemental. La vie est aussi facilitée pour des projets de stockage de CO2 et également pour les aménagements fonciers agricoles et forestiers. En pratique, on parle de regroupement de parcelles, autrefois appelé remembrement. Ce décret avait pourtant reçu, lors de sa consultation publique en ligne, 14 000, presque 15 000 avis défavorables, contre seulement 20 favorables. Et bien sur cette base, le Commissariat Général au Développement Durable avait donc émis un avis défavorable lui aussi. Et bien il est pourtant passé tel quel. Rehausser les seuils signifie faciliter l'agrandissement en supprimant les dispositifs de contrôle démocratique et scientifique, déplore aussi l'association Agir pour l'Environnement. Pour elle, le gouvernement choisit d'accélérer dans le mur en poursuivant l'industrialisation de l'élevage français au détriment de la paysannerie, de l'aménagement du territoire, des milieux aquatiques, du climat, de la santé animale et de la qualité de l'air.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et puisqu'on parle d'élevage agricole, la transition est toute trouvée avec ces angoisses d'une peut-être possible grippe aviaire qui toucherait l'humanité. Eh bien, au niveau de l'Union européenne, il a été annoncé ce 11 juin qu'un contrat avait été conclu, contrat qui permet d'acheter des vaccins du laboratoire britannique Seqirus. Ces vaccins sont donc censés prévenir la contamination des êtres humains par la grippe aviaire. 15 États membres, dont la France, participeront à cet achat en commun. Jusqu'à 665 000 doses. Le contrat leur permettra de commander donc des vaccins en fonction de leurs besoins, afin de prévenir la propagation ou l'apparition de foyers potentiels. Des premiers colis, des premiers acheminements sont déjà en cours de préparation vers la Finlande. Des envois vers d'autres pays suivront. Ces doses seront destinées aux personnes les plus exposées au risque de contamination par la grippe aviaire, donc en premier les travailleurs des élevages de volailles et les vétérinaires. Ce vaccin de l'entreprise Seqirus, c'est pour le moment le seul qui est autorisé dans l'Union européenne contre la grippe provoquée chez l'humain par les souches H5 du virus de la grippe aviaire. Deux virus de ce type inquiètent particulièrement les autorités sanitaires, H5N1, on le connaît déjà celui-là, et il décime le vivant d'ailleurs toujours depuis 2020, on est en pleine crise jusque dans l'Antarctique, et depuis le mois de mars il se propage dans les élevages bovins aux États-Unis. Et enfin H5N2, son cousin, qui a lui été retrouvé au mois de mars dans des volailles d'élevage dans l'ouest du Mexique. Trois contaminations d'humains par le H5N1 ont jusqu'à présent été répertoriées aux États-Unis. À chaque fois, il s'agissait de travailleurs en contact avec des troupeaux infectés. Au début de ce mois de juin, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé également le décès du premier humain infecté par H5N2. Une mort qui reste multifactorielle, selon l'OMS, donc pour tempérer un petit peu, puisque l'homme qui est décédé était âgé de 59 ans et il souffrait à côté de cela d'une maladie rénale chronique, un diabète de type 2 d'hypertension artérielle systémique. Histoire d'essayer de ne pas affoler la population, mais quand même. Pour le moment, donc, aucune infection d'humain à humain n'a été confirmée, mais la communauté scientifique craint des mutations plus dangereuses de la souche H5N1, des mutations qui pourraient être favorisées par sa circulation importante dans le moindre animal, sachant que vu que c'est une grippe aviaire donc qui touche les oiseaux, et les oiseaux, on le sait, ils volent et ils ne connaissent pas les frontières. C'est donc la crainte d'une transmission à l'échelle mondiale avec les oiseaux migrateurs, puis un gros relais et des gros foyers dans les élevages industriels, et enfin, le dernier chaînon manquant, ça serait l'humain.
Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr!
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra!
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
On va faire un dernier petit tour de brève à l'international. Des nouvelles de ce qui se passe du côté de la politique israélienne. Il y a eu la démission le 9 juin déjà de l'ancien chef d'état-major israélien et du ministre centriste Benny Gantz, ainsi que deux autres ministres de son camp du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Lundi 17 juin que le Premier ministre a annoncé la dissolution du cabinet de guerre. C'est dans les colonnes du quotidien israélien Haaretz qu'on apprenait ça, et c'est le Courrier international qui l'a traduit. Ce fameux cabinet de guerre avait été formé, donc créé dans la foulée de la guerre déclenchée en octobre dernier, et c'est un cabinet restreint qui rassemblait plusieurs ministres, dont les ministres de la Défense et des Affaires stratégiques. L'idée, c'était de prendre des décisions rapides concernant la guerre en cours contre le groupe palestinien du Hamas dans la bande de Gaza. Certaines des questions précédemment discutées par le cabinet de guerre seront désormais transférées pour discussion au sein du cabinet de sécurité, mais les décisions sensibles seront abordées dans un forum de consultation plus restreint. Ça, c'est pour les détails un petit peu. C'est donc quand même une dissolution de ce cabinet de guerre, et elle est considérée par les observateurs comme un geste symbolique, principalement destiné à empêcher l'arrivée de certains ministres. Par exemple, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est lui connu pour ses positions extrêmes. Donc il y en a encore des plus énervés, qui ne sont pas au pouvoir visiblement en Israël. Donc les démissions évidemment de Benny Gantz, Gadi Eisenkot et Ily Tropper, dont je vous ai parlé il y a plus d'une semaine, avaient exacerbé les craintes en Israël et à l'international d'un virage donc encore plus à droite du gouvernement israélien, qui est toujours accusé de crimes contre l'humanité, voire de génocide, par plusieurs pays et instances internationales. Une dissolution donc pourrait tenter un petit peu d'apaiser les craintes, qui a lieu par ailleurs 24 heures après l'annonce par l'armée israélienne et sans consultation préalable des hauts dirigeants du pays, d'une pause tactique et humanitaire quotidienne de 11 heures dans le sud de la bande de Gaza, et ce jusqu'à nouvel ordre. À noter d'ailleurs que l'armée israélienne a annoncé cela sans consulter notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou. On se demande qui est un peu à la barre dans ce pays. Et voilà, j'en profite pour vous annoncer qu'aujourd'hui, donc ce mardi à 18h, un rassemblement est organisé comme tous les mardis à Ganges sur le parvis de la mairie. Et on part en Californie pour terminer ces nouvelles du monde où en Californie, depuis ce week-end, depuis le samedi, subit le plus grand incendie de l'année qui fait craindre un été très dangereux après deux années pleines de pluie qui ont étoffé une végétation désormais susceptible d'agir comme combustible selon les spécialistes. Donc vous voyez que même quand on se réjouit que la végétation reprend, avec une bonne sécheresse derrière, ça peut finalement créer des incendies encore pires. Ce post-fire, c'est comme ça qu'on l'appelle, il s'est déclaré dans la région rurale de Gorman, à un peu plus d'une heure de route au nord-ouest de Los Angeles. Il a déjà brûlé plus de 5900 hectares en deux jours et entraîné l'évacuation de 1200 personnes. Hier matin, il n'était contenu qu'à 8%, malgré les efforts sur place de 1150 pompiers, selon le dernier bulletin des autorités. Ce feu s'est propagé très rapidement à cause des vents puissants et il a essentiellement consumé des grandes étendues de broussailles et de prairies dans cette région montagneuse. Les habitations, pour l'instant, ont globalement été plutôt épargnées. Ce feu a été déclenché dès la mi-juin et c'est un vaste incendie qui pourrait bien être l'avant-goût d'une saison des feux intenses pour la Californie, d'autant qu'une quinzaine de feux de taille plus modeste se sont aussi déclarés dans l'ensemble de l'État au cours de ce week-end. Le climatologue Daniel Swain de l'Université de Californie à Los Angeles avertissait hier « D'ici juillet, nous allons probablement avoir une saison des incendies très active, notamment à basse altitude. » L'État de la Californie a, je vous le disais, connu deux hivers pluvieux consécutifs, ce qui a favorisé donc la croissance d'une végétation particulièrement dense. En s'asséchant à l'approche de l'été, cela offre donc plus de biomasse à brûler lors de potentiels incendies. En cumulé, en effet, les deux dernières années ont été les plus pluvieuses jamais enregistrées à Los Angeles, selon les services météo américains. Les vagues de chaleur précoces cette saison dans l'ouest américain font donc désormais craindre un assèchement rapide de cette végétation. Au début de ce mois de juin, des records saisonniers de température ont été atteints dans toute cette partie du pays. On a atteint par exemple les 44 degrés Celsius à Las Vegas et 50 degrés Celsius dans la vallée de la mort. Ce sont des niveaux inédits pour une fin de printemps. Le reste du pays, des États-Unis, connaît lui aussi des signaux alarmants. Le centre et l'est du pays se préparent à affronter une vague de chaleur étouffante cette semaine, avec des températures anormalement élevées pour un mois de juin. Selon les scientifiques, ces vagues de chaleur à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et sont appelées à se multiplier, à durer plus longtemps et à s'intensifier. Les spécialistes estiment également que des températures anormalement élevées en période pré-estivale peuvent être annonciatrices d'un été suffocant. Donc voilà, profitons-nous de ce petit temps qui reste encore pour l'instant assez clément et n'attendons pas trop vite la chaleur. On va se quitter là-dessus avec un petit morceau de musique qui parle de vagues de chaleur, mais là, on était dans les années 60, donc tout était évidemment question d'amour, voire de désir, et c'est les Who qui reprennent un morceau de Martha and the Vandellas. Voilà, tant qu'il nous restera de la musique, l'espoir aussi. Allez, à jeudi pour d'autres nouvelles du monde. À très bientôt.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.